Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. On se retrouve une nouvelle fois jusqu'à 16h et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et pour retrouver, je suis accompagné comme tous les jours par ma chère camarade Ombline. Oui. Comment allez-vous, ma chère?
Bonjour Olivier, ça va bien, bonjour à tous.
Bonjour. Ici, ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est votre vécu, vos joies comme vos peines de vie. Jusqu'au 23 mars, ce sont les journées de la schizophrénie. L'occasion de parler de la maladie, de ses symptômes et de ceux qui la vivent. 660 000 personnes sont atteintes des troubles de troubles schizophréniques en France, soit une personne sur 100. Clichés et préjugés entourent la maladie. La schizophrénie provoque des idées délirantes, des hallucinations, des crises d'angoisse, mais aussi un retrait social. Un repli de soi dû notamment à la méconnaissance de ce trouble. Pourtant, les professionnels le martèlent, les schizophrènes sont victimes de violences bien plus qu'ils n'en sont les auteurs. Alors comment sortir de l'incompréhension? Schizophrénie, comment la déstigmatiser? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute comme chaque jour au 39 21 50 centimes la minute. Jusqu'à 16h, vous nous écrivez également sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Tiana sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Tiana.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Tiana?
J'ai 29 ans et je vous appelle de Bretagne.
D'accord. Où exactement en Bretagne?
À côté de Rennes.
D'accord. Bon, là vous avez beau temps aujourd'hui, hein?
Oui,
bon.
Oui.
Et Rennes, une bien belle région. Alors, au collège, Tiana, vous vous sentiez différente, comme si vous ne reconnaissiez pas dans ce monde, vous n'y trouviez pas votre place. Vous aviez des idées noires, des difficultés à vous ouvrir aux autres et être pleinement présente, comme vous le dites, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et comment ça se traduisait, en fait? C'est lorsque vous regardiez les autres que vous vous sentiez exclue d'une certaine réalité. Que ressentiez-vous exactement?
J'avais le problème, je me repliais sur moi-même et je n'allais pas vers le contact des autres parce que ça me faisait peur et je ne me trouvais pas à ma place, en fait.
Mmh. Et ça vous inquiétait, bien sûr, de ne pas vous trouver à votre place?
Oui, ça m'inquiétait et je me demandais comment j'allais faire quoi, pour trouver ma place.
Mmh. Alors ça a commencé, comme on l'a dit, très jeune. Hein. Vous avez fini par consulter, mais à quel âge, en fait, vous avez commencé à consulter?
Quand j'avais vers 9-10 ans, je consultais déjà quelqu'un.
D'accord. À cet âge-là, on vous a dit que vous étiez en dépression à 9 ans. Hein. Est-ce que vos parents ont été éclairés par ce diagnostic? Est-ce que vous compreniez, vous, du haut de vos 9 petites années, ce que ça voulait dire être en dépression?
Non, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et je ne savais moi-même pas comment gérer ce mot-là et qu'est-ce que ça voulait dire, quoi.
Mmh. Comment est-ce que ça se passait au quotidien, là, à 9 ans, quand on ne se sent pas à sa place, quand on sent que voilà, on est à côté de la réalité, qu'on ne comprend pas tout, en fait? On le vit comment? On est exclu par les autres? Enfin, les autres, vous montraient qu'ils vous excluaient?
Oui, parce qu'ils étaient tous en petit groupe et moi, j'étais toujours toute seule, quoi, en fait.
Ouais. Mmh. Alors, est-ce
j'étais toujours toute seule.
Et on vous a prescrit des antidépresseurs à l'époque, déjà, en fait, est-ce que vous avez pris un traitement spécifique?
À l'époque, j'avais passé par l'homéopathie, ça marchait pas.
Ouais.
Et puis après, on m'a donné des antidépresseurs pour aller mieux.
Mmh. Est-ce que ça vous a fait du bien, ça?
Au départ, c'était mitigé, mais après, au début, je ne comprenais pas pourquoi il fallait prendre un traitement. Et après, on m'a expliqué avec des mots simples qu'il fallait que je le prenne pour que j'aille mieux.
Mmh. Alors, bien évidemment, on vous disait à l'époque que c'était une dépression. Sauf qu'au bout d'un moment, ces antidépresseurs, vous vous êtes aperçu que ça n'était pas vraiment quelque chose qui améliorait les choses et votre état s'est aggravé. Vous aviez conscience que cela pouvait être autre chose qu'une dépression ensuite. Est-ce qu'il y a un moment, vous vous êtes dit, mais c'est pas une dépression et puis ça me fait rien, ces médicaments?
Oui, bah, j'ai compris ça quand j'étais au collège, lycée, que les antidépresseurs ne marchaient pas, il y avait quelque chose d'autre. Même je me trouvais étrange, comparée aux autres, et je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait.
Mmh. Et comment échangez-vous avec vos parents sur votre ressenti? Parce que ça doit être compliqué de trouver les mots pour dire je ne me sens pas à ma place. J'imagine lorsqu'on a 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est compliqué, non? Vous en parlez avec vos parents un peu?
Bah, j'en parlais pas forcément, et en fait, au lieu de parler, je faisais des choses qui me mettaient en danger, et c'était comme si un signal d'alarme, en fait.
Mmh. Vous faisiez des choses du type quoi? Vous vous mettiez en danger comment? Si ça vous gêne, ne me dites pas. Hein. Je vous demandais, est-ce que vous aviez des comportements à risque, c'est-à-dire traverser la rue sans regarder, monter sur des murs.
Des choses comme ça, oui.
D'accord. En 2010, on a fini par dire que vous étiez atteinte de troubles schizophréniques. En 2010, donc, vous aviez quel âge exactement?
J'avais 17, 18 ans, un peu
d'accord.
comme ça.
Cela vous a fait peur d'entendre parler de troubles schizophréniques?
Ah oui, au début, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme j'avais entendu des choses pas terribles sur ce sujet-là, et je me suis dit, mais je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas être une personne comme ça.
Mmh. À l'époque, vous dites, je ne peux pas être une personne comme ça. C'est-à-dire que vous aviez des préjugés sur cette maladie. Pour vous, elle voulait dire quoi, cette maladie?
Elle voulait dire que c'était qu'on était dangereux, quoi.
Ouais. Mmh.
Dangereux ou problèmes mentaux, quoi.
Mmh. Et pourtant, les médecins vous disaient que vous souffriez vous-même de troubles schizophréniques et vous n'étiez pas du tout dangereuse, sauf pour vous, hein, c'est ce que vous m'avez dit.
Voilà, oui, c'est ça.
Alors, vous restez en ligne avec nous, Tiana. Nous allons continuer à parler de votre histoire, mais aussi de la manière dont vous avez abordé cette maladie. Et justement, on va voir comment vous aider, par votre témoignage, à déstigmatiser cette maladie qu'est la schizophrénie.
Europe 1. Quelle attitude adopter avec une personne schizophrène? Comment éviter l'isolement des personnes malades? On vous attend au 3921.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous nous demandons cet après-midi comment combattre les fausses idées sur la schizophrénie. C'est votre histoire, celle d'un de vos proches. Vous nous racontez au 3921.
Et nous sommes toujours en ligne avec Tiana qui nous expliquait avoir senti longtemps, du haut de son enfance et puis de son adolescence, ne pas être à sa place, être en décalage, ne pas être dans la réalité des autres, et puis ensuite avoir été diagnostiquée de troubles schizophréniques à l'âge de 17 ans. Tiana, vous dites que vous ne vouliez pas être comme ça, que vous n'acceptez pas le fait d'être atteinte de ces troubles. Pourquoi?
Bah parce que je me suis dit, ça ne peut pas m'arriver à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi ça m'arrive à moi à ce moment-là, quoi.
Mmh. Est-ce que on vous a accompagné à ce moment-là pour éviter déjà de se faire des idées fausses sur ce que l'on appelle ces troubles schizophréniques? Est-ce qu'on vous a expliqué? Est-ce que les médecins vous ont accompagné? Est-ce que vos parents vous ont accompagné? Est-ce qu'on vous a expliqué qu'il fallait se soigner, que tout ça pouvait se régler?
Au départ, je refusais de me soigner, de prendre le traitement. Et puis, au fur et à mesure, en discutant avec mes infirmiers, j'ai appris à prendre conscience qu'il fallait prendre un traitement, se soigner pour aller vers le mieux, vers la stabilisation. Et aussi, je me suis pas mal documentée sur la maladie pour comprendre, pour me faire un cheminement, pour accepter la maladie, en fait.
Mmh. Cheminement qui vous a porté à vous rendre compte que les clichés que vous aviez vous-même sur la schizophrénie, eh bien, ça n'était pas la réalité et ça n'était pas votre réalité.
Voilà, oui, ce n'était pas la réalité.
Mmh. Et ces troubles schizophréniques, lorsque vous avez atteint l'âge de 17 ans, ils se sont traduits comment exactement?
J'avais des angoisses, j'avais des idées noires et des voix qui me parlaient dans ma tête, en fait.
D'accord, ok. Et ces voix, en fait, elles sont venues à partir de quel âge exactement?
Vers 18-19 ans, en fait.
18-19 ans. Est-ce que ça correspond au moment où le jugement, le regard des autres vous a empêché de faire face et donc de mener la vie que vous vouliez, c'est-à-dire vous soigner et être dans la société? Est-ce que c'est le jugement sur cette maladie qui vous a empêché de sortir de chez vous?
Ah oui, complètement, complètement.
Alors, pour vous aujourd'hui, dites-moi, aujourd'hui vous vous soignez?
Oui.
Vous vous sentez comment? Vous vous sentez beaucoup plus apaisé?
Plus apaisé, plus ouvert aux autres et aller vers les autres.
Mmh. Ça, vous l'avez clairement senti. C'est-à-dire que souvent, lorsque quelqu'un souffre de cette maladie de la schizophrénie, et qu'on arrive à lui faire comprendre qu'il faut qu'il prenne son traitement, souvent, lorsque ça va mieux, le réflexe, c'est de dire « je vais mieux, j'arrête ». Est-ce que ça a été une étape que vous avez vécue, ou alors, depuis qu'on vous a dit « il faut vous soigner », vous avez continué comme on vous disait?
Une période, j'ai arrêté, je me dis « j'ai plus de symptômes, tout va bien, je peux les arrêter ». Et en rediscussion avec mon psychiatre, il m'a dit « surtout pas arrêter, même s'il n'y a plus de symptômes, il faut continuer à le prendre pour stabiliser encore plus la maladie
». Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous avez écouté ce psychiatre, que ça va beaucoup mieux. C'est la cuisine qui vous fait du bien. Et je sais que c'est aussi la musique. Tenez, on va vous passer quelque chose qui vous plaît bien.
Marguerite, c'est mes côtes chies, c'est mes côtes fausses, c'est mes côtes closes. C'est pas vraiment un bon corps, mais c'est dans le miel à tous les corps. C'est comme un parfum de nocturne qui aurait le goût d'élever du jour.
Ça, c'est Damien Cesse, vous aimez bien, la musique, c'est quelque chose
oui.
qui vous apaise et bien aujourd'hui?
Oui, énormément.
Et pourquoi ça? Alors, c'est quelque chose qui vous accompagne tous les jours, qui vous calme?
Ça me calme et ça me permet d'écrire des textes sur la maladie et de m'échapper un peu de tout ça.
Mmh. Quelle vie sociale vous avez aujourd'hui? Parce qu'avec ce traitement, la stabilisation pardon, de ce traitement, de cette maladie, quelle vie sociale vous avez? Vous avez des copains? Vous échangez? Vous allez à des concerts par exemple? Vous sortez?
Je sors, je vais à des concerts, je suis bénévole pour des concerts à Rock, Bobital, des choses comme ça en cuisine. J'ai des sorties, je vois quelques amis et puis je vais aussi au SAVS, Service d'accompagnement à la vie sociale aussi.
D'accord. Est-ce que vous avez cherché à avoir un emploi à un moment? Est-ce que vous avez travaillé ou vous voulez travailler ou c'est quelque chose qui vous met encore trop la pression?
Je cherche du travail, j'ai déjà travaillé un petit peu, mais je cherche quelque chose où je serais bien, où je serais bien encadrée, où il n'y aurait pas trop de pression en fait. Mmh.
Quel type de travail vous avez fait avant?
J'étais en travaillant en cuisine, comme j'ai un CAP de cuisine.
Ouais, et ça, il y avait trop de pression en cuisine?
Surtout pour travailler en restaurant, il y a trop de pression, mais
oui.
Dans les collectivités ou travailler pour une boîte de Catherine de cuisine dans les festivals, c'est parfait, quoi.
Ouais. Alors, justement, si les organisateurs de festivals aux quatre coins de France, et Dieu sait s'il y en a les festivals, et je pense même à tous les concerts qu'il y a tous les soirs, tous les week-ends, partout en province, si vous cherchez une bonne main, alors dans la région de Rennes, bien évidemment, pour participer au catering. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un catering aussi, parce qu'on peut ne pas savoir, si on n'a pas vraiment été dans le milieu de l'art, eh bien ce sont les gens qui préparent le catering, donc tout ce qui entoure le déjeuner, le goûter, en tout cas, et le dîner des musiciens et des artistes. En tout cas, ça vous plairait bien de trouver un boulot là-dedans?
Oui,
d'accord.
J'adore le contact avec les artistes, et faire la cuisine pour eux, c'est exceptionnel, quoi.
Mmh. Mais écoutez, ça va finir par tomber, surtout qu'à Rennes, vous avez toujours les transmusicales de Rennes et puis vous avez des concerts tout le temps dans cette ville de Rennes.
Oui.
Bon, eh bien écoutez, merci infiniment Tiana d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire et puis je vous embrasse bien fort. Et puis dans quelques instants, nous serons avec Nicolas Franck, il est professeur de psychiatrie au centre hospitalier Le Vitanier à Lyon.
Europe 1.
Vous êtes atteint de schizophrénie, l'un de vos proches est schizophrène, on vous attend au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire, nous vous lisons avec plaisir vos messages, notamment sur Twitter avec hashtag Europe 1. Propos incohérents, perte d'émotivité, hallucination, vous êtes atteint de schizophrénie, l'un de vos proches, comment votre maladie est-elle prise en charge? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et 39-21 pour nous appeler.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Nicolas Franck, professeur de psychiatrie au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. Bonjour professeur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour, avec plaisir.
Bonjour. Alors professeur, pourquoi est-on si peu informé aujourd'hui sur ces troubles schizophréniques alors qu'ils touchent une personne sur 100? Est-ce que c'est une maladie qu'on ne veut pas voir, dont on ne veut pas entendre parler?
Écoutez, oui, je crois que vous donnez un peu les éléments principaux de la réponse. Hein. C'est quelque chose qu'on a gardé un peu comme un élément tabou pour se faire peur. Une maladie à laquelle on a associé des représentations assez terribles, comme la violence, ça a été évoqué par Tiana. Et
ouais.
Après, les gens ont tendance à s'approprier ces représentations et à se dire que bah, s'ils ont une schizophrénie, c'est sûrement qu'ils sont violents, qu'ils sont incapables, qu'ils ne pourront pas travailler. Donc c'est tellement terrible qu'on préfère le mettre de côté, le nier, ne pas le voir et ne pas s'informer. Et puis, il faut dire que ben, les programmes de l'éducation nationale ne nous aident pas. Ça ne fait pas partie de ce qu'on apprend aux enfants, que ce soit dans le secondaire, au collège ou au lycée, ce que c'est que la schizophrénie ou même la dépression. Mmh. On en parle de plus en plus. Les médias s'y intéressent, la preuve.
Oui.
On a maintenant la semaine de la schizophrénie et puis la semaine de la santé mentale depuis longtemps. Mais ça reste quelque chose de très mystérieux qui ne fait pas partie de la culture générale. Moi, je crois que pour aller plus loin, il faut vraiment que les gens sachent ce que c'est. C'était très intéressant ce témoignage de Tiana où on a vu ben, sa souffrance, le côté humain, ses difficultés, l'absence complète de danger pour qui que ce soit, à part pour elle, le danger de rater sa vie,
oui.
Si on ne l'aide pas.
Bah, c'est
comme ça qu'on avancera, hein. C'est,
oui.
C'est en écoutant les personnes concernées, je crois. Mmh.
Parce qu'on a entendu dans le témoignage de Tiana combien elle avait été rejetée très vite, hein, et que le regard qui se posait sur elle était un regard en plus qui mettait une barrière entre elle et les autres, en tout cas qui l'empêchait d'aller vers les autres. On l'a nié. En fait, c'est vraiment l'impression qu'elle m'a donnée. Et justement, pourquoi, à votre avis, autant de clichés subsistent autour de cette maladie qui est la schizophrénie? Moi, j'ai une petite idée parce qu'elle a, pour moi, hein, été souvent associée à des faits divers sanglants et qui ont marqué les esprits. Est-ce qu'à votre avis ça a largement contribué à ce que la schizophrénie est une mauvaise image, en tout cas une image fausse?
Bien oui, mais surtout ces faits divers qui sont quand même assez rares sont surmédiatisés.
Ouais.
Alors que la souffrance quotidienne de centaines de milliers de personnes, puisque ça concerne, vous l'avez bien dit tout à l'heure, en France plusieurs centaines de milliers de personnes.
Ouais.
Et ben oui, c'est ça. Et cette souffrance, elle est pas mise en avant. Donc si on voit ce qui concerne une ou deux de ces personnes-là, et puis pas ce qui concerne 100%, enfin presque toutes les autres, on a évidemment une vision complètement fausse.
Vous, professeur, qui êtes au contact de ces malades souffrant de schizophrénie, de parents aussi, parce que c'est souvent voilà, grâce aux parents hein, que voilà, ces patients s'en sortent aussi. Est-ce que vous l'entendez, cette stigmatisation ressentie par les patients, par les familles de patients?
Mais je l'entends non seulement rapporté par les parents, par les personnes elles-mêmes, mais par la population générale, mais j'entends aussi que la stigmatisation, les gens se la sont appropriés, c'est ce qu'on appelle l'auto-stigmatisation.
C'est-à-dire
quelqu'un qui reçoit un diagnostic de schizophrénie se sent incapable de réussir sa vie.
Oui.
Parce que de fait, les stéréotypes de la société, ils les portent, ils se les approprient. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, en fait. Il faut permettre aux personnes de se détacher de cette image de la maladie, de ne plus se définir par la maladie. Donc la première chose que je leur dis, c'est là vous me dites « je suis schizophrène », mais non, ne vous définissez pas par votre trouble. Définissez-vous par ce que vous êtes, par vos qualités. Votre trouble, vous l'avez en plus, vous avez une schizophrénie, mais vous n'êtes pas schizophrène, parce que vous êtes bien autre chose. Donc le simple fait de leur dire ça déjà, ça permet de mettre un petit peu à distance la maladie.
Et justement, comment aider ces patients à se déstigmatiser eux-mêmes, c'est-à-dire à les aider à trouver leur place dans la société, et puis ne plus avoir peur, finalement, de sortir, comme Tiana nous le disait, je ne sortais plus, quoi. Il y a un moment, je restais chez moi.
Eh bien, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'avec la schizophrénie, il y a, enfin, dans la schizophrénie, il y a les manifestations symptomatiques qui ont été bien évoquées tout à l'heure, oui. avec parmi les plus spécifiques, les plus caractéristiques, mais pas complètement spécifiques, les hallucinations verbales, le fait mm-hmm. d'entendre des voix, mm-hmm. le fait d'avoir une représentation perturbée de la réalité, le fait d'avoir aussi l'incapacité de faire certaines choses, plus ressentir d'allant, plus pouvoir entreprendre des actions, construire des projets, etc., etc. Mais il y a aussi des troubles associés.
Oui.
qui sont des troubles de la concentration, des troubles pour comprendre les émotions, les intentions d'autrui, ce qu'on appelle la cognition sociale,
oui.
des troubles de l'insight, c'est-à-dire le fait de se comprendre soi-même, de prendre conscience de sa maladie. Et ces troubles associés, ils nuisent considérablement au pronostic, à la capacité de la personne à gérer son quotidien. Et là, on l'a vu tout à l'heure, parce que le fait de ne pas savoir aborder les autres petits, d'être à distance, et puis les autres, ils ne sont pas spécialement bienveillants. Hein. Si quelqu'un est différent, ils lui disent bah, « débrouille-toi » ou « il ne lui parle pas » ou au contraire, il se moque.
Oui.
Et bien ça contribue au rejet. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les troubles de la cognition sociale, qui sont de mieux en mieux connus maintenant, mm-hmm. qu'il faut identifier, dont il faut faire prendre conscience à la personne et qu'on peut traiter.
Et
on a des programmes
oui.
qui sont très efficaces sur ces problèmes-là.
Et c'est pour cela que vous faisiez allusion au fait que l'école, ça devait passer aussi par l'éducation des enfants et surtout à l'école Omblin, je crois que...
Oui. On a un message de Jody sur Twitter, hashtag Europe 1, qui nous dit « C'est bien, très bien même de déstigmatiser la schizophrénie, mais le discours qui dit que la stabilisation de la maladie, voire la guérison, passe par la médication, c'est oublier que les médicaments nous détruisent aussi.
Mmh. » Professeur, qu'en pensez-vous ? Parce que c'est vrai que ces médicaments ont des effets secondaires aussi souvent liés au décrochage de certains patients.
Voilà, juste ajouter une petite chose avant par rapport à la remarque précédente.
Ouais.
Effectivement, pour aller bien, bah, il faut, en général, dans la schizophrénie, enfin, dans l'immense majorité des médicaments, mais pour pas être détruit, comme ça vient d'être rapporté, à une dose adaptée, selon des modalités adaptées, mais il faut forcément, en plus, des modalités non médicamenteuses.
Ouais.
Donc, quand je faisais allusion au traitement des difficultés d'interaction sociale, ce sont des traitements non médicamenteux. C'est ce qu'on appelle de la remédiation de la cognition sociale,
oui.
ou l'entraînement des compétences sociales. On apprend à la personne à pouvoir identifier les informations sur le visage d'autrui pour pouvoir reconnaître les émotions,
oui.
à pouvoir avoir des comportements adaptés dans telle ou telle situation. Ce sont des choses qui peuvent s'apprendre.
Oui.
Ça fait partie de la rééducation, mais c'est extrêmement efficace et c'est indispensable.
Mm-hmm.
Et malheureusement, toutes les personnes qui ont une schizophrénie n'en bénéficient pas encore. C'est aussi s'intéresser à leur projet de vie
ouais.
et mettre en place des outils de soins médicamenteux et non médicamenteux pour qu'ils réussissent leur projet de vie. Et ça rejoint votre question d'à l'instant. C'est-à-dire que pour que le projet de vie réussisse, il faut que les traitements soient bien tolérés, les traitements médicamenteux.
Mmh. Et
donc,
la
qualité de la prescription.
Ouais. Et que l'on ne soit pas obligé de passer par un traitement lourd. Donc je pense que le professeur a répondu...
Un jeudi, oui, sur
ouais,
Twitter.
Vraiment, parce qu'en fait, cette technique, en fait, vous dites qu'elle manque. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas répandue partout ? Parce qu'on manque de formation aussi chez les médecins aujourd'hui ?
Ce sont des techniques assez nouvelles. Hein. Ça fait partie de ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale,
oui.
Qui n'était pas très connue, avec une diffusion qui était modérée. Mais là, on a des textes réglementaires qui, depuis quelques mois, quelques années pour le premier texte, on a eu un décret, là on a une instruction du ministère de la Santé, doivent être à disposition de toute la population dans toute la France.
Mmh.
Mais les formations, on les a montées, j'ai plusieurs diplômes d'université, remédiation cognitive, psychoéducation, père aidance, etc., qui permettent de répondre à ce besoin de formation et également de l'e-learning pour former toutes les équipes en santé mentale en France.
Mmh.
Et ça, c'est en accès libre sur le site centre-ressources-réhabilitation.org. Donc non, le besoin de formation, il est rempli. Maintenant, c'est l'organisation de ces formations, c'est une question de temporalité, et puis c'est la création de dispositifs qui permettent de mettre ça à la disposition de tout le monde.
Et puis il faut, je suppose aussi une volonté gouvernementale hein, de pouvoir envoyer tous ces médecins, en tout cas que cette formation elle soit à disposition de beaucoup de médecins aujourd'hui, parce que ça doit coûter aussi un peu d'argent aussi. Donc est-ce que
c'est beaucoup les paramédicaux.
Beaucoup les paramédicaux. D'accord.
Les psychologues,
d'accord.
Oui, c'est pas que les médecins. Non,
d'accord.
Pas que les médecins,
mmh.
et beaucoup les pères aidants, c'est-à-dire des personnes qui sont rétablies, qui peuvent aider les autres.
D'accord.
Elles ont une légitimité extrêmement forte pour parler de ce qu'elles ont vécu, et elles peuvent apporter vraiment beaucoup à des personnes comme Tiana qui sont dans l'épreuve de la maladie.
Ouais. Et alors dites-moi, juste pour ceux qui vous écoutent aujourd'hui, et les parents notamment, où peuvent-ils se renseigner sur cela, sur Internet, quelle démarche à faire ?
Bah de toute façon, ça c'est à peu près partout dans tous les hôpitaux maintenant. Donc vous avez les secteurs de psychiatrie qui sont la porte d'entrée dans le dispositif de psychiatrie,
ouais.
qui peuvent vous orienter vers des structures de réhabilitation psychosociale qui sont recensées sur le site que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez une carte de France avec des points un petit peu partout, et vous pouvez trouver le centre de réhabilitation le plus proche de votre domicile.
Mmh. Professeur.
C'est un réseau existant.
Professeur Nicolas Franck, est-ce qu'on guérit aujourd'hui de la schizophrénie ?
Je pense qu'il y a trois concepts qu'il est très important de distinguer. Le concept de guérison, ça c'est quand on a une maladie qui se déclenche, on attrape un virus, oui. On sécrète des anticorps, on détruit le virus, ça disparaît complètement. Mm-hmm. Ça, dans la schizophrénie, c'est pas forcément tout à fait ce qui se passe, parce que c'est quelque chose de longue durée, avec des facteurs qui sont plus ou moins permanents, qu'on aura peut-être le temps d'évoquer. Vous avez ensuite la rémission. Oui. C'est le fait que les symptômes ont disparu, sont en suspens, mais qu'il faut maintenir un traitement médicamenteux et ou non médicamenteux pour qu'ils ne réapparaissent pas. C'est une vision médicale de la chose, c'est peu satisfaisant. En réalité, c'est la troisième notion qui est la plus importante, c'est celle du rétablissement. Oui. C'est que la personne se sente suffisamment bien pour vivre la vie qu'elle souhaite. Avec peu de symptômes, beaucoup de symptômes, c'est ce qui lui convient. Avec les objectifs qui lui convient. C'est ça qu'on essaye de favoriser maintenant. On essaye vraiment de former les équipes aux approches orientées rétablissement. Donc on leur apprend à se mettre dans la perspective de l'usager et à accepter qu'il puisse rester des symptômes, à accepter que les choses ne soient pas parfaites du point de vue purement objectif.
Et cette rémission est possible, on l'a constaté.
Ce rétablissement.
on ne parle pas de rémission, de rétablissement, pardonnez-moi. Restez en ligne avec nous, Nicolas Franck. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. Dans quelques instants, nous accueillerons Bénédicte. Son fils est atteint de troubles schizophréniques. Il a vécu beaucoup d'errances médicales. Et pour Bénédicte, cela a été un combat de tous les instants.
Europe 1. Vous êtes atteint de schizophrénie. Comment faites-vous face au quotidien ? C'est le cas d'un de vos proches. Vous nous expliquez, vous nous racontez. Au 39-21, on a envie de vous entendre. On vous lit aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes atteint de schizophrénie. Vous accompagnez au quotidien une personne qui souffre de cette maladie. Vous n'hésitez pas. Vous témoignez. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour,
quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors moi j'ai 56 ans, je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors Bénédicte, votre fils Charles est tombé malade alors qu'il avait 17 ans.
Oui.
Quels ont été les premiers symptômes que vous avez remarqués chez lui ?
Alors en fait, mon fils a commencé à fumer du cannabis à l'âge de 16-17 ans. Donc ouais. Les premiers symptômes, justement, pour moi, c'était les effets du cannabis. Il était assez fuyant, il avait perdu beaucoup de poids, il voulait pas du tout participer aux réunions de famille. Il avait des réponses très courtes, il était parfois un peu décalé par rapport aux situations. Il avait bien évidemment, il ne travaillait plus à l'école. C'était vraiment des signes que moi j'avais tout à fait j'avais confondu en fait avec la prise de cannabis. Alors qu'en fait c'était
parce que vous ne connaissiez pas en fait, vous ne saviez pas ce que c'était le cannabis.
Je sais que les jeunes malheureusement en fument beaucoup et qu'ils connaissent malheureusement pas les conséquences parce que le cannabis précipite vers des maladies psychiques graves. Donc
en tout cas, que l'on peut dire c'est que lorsqu'on a un terrain favorable à développer la schizophrénie, on peut très bien ne jamais la développer et il suffit justement de toucher à ce que l'on croit et ce que certains prônent aujourd'hui comme étant quelque chose d'inoffensif qui s'appelle donc le cannabis ou l'herbe ou la weed comme certains disent et que malheureusement un joint peuvent suffire à déclencher une crise de panique ou de paranoïa aiguë qui peuvent précipiter un enfant de 15 ans et même jusqu'à l'âge de 25 ans. Le professeur peut-être nous le dira tout à l'heure, Nicolas Franck, mais en tout cas, lorsqu'on a un terrain propice, c'est extrêmement dangereux de fumer du cannabis.
Absolument, absolument. Et malheureusement, il n'y a pas assez de campagnes de prévention justement pour, non pas faire la morale, mais au moins prévenir les jeunes et leur dire que c'est surtout fumer jeune quand le cerveau est encore à maturité, les effets sont très forts et les prévenir que c'est pas sans risque en fait de fumer le cannabis, surtout que le cannabis d'aujourd'hui est très fort en THC et donc c'est
aujourd'hui
pas, en fait,
aujourd'hui le cannabis d'aujourd'hui est trafiqué hein, on peut le dire comme ça. Bénédicte, Charles en fait quel garçon était-il avant d'avoir cette expérience avec le cannabis, quel garçon était-il ? Est-ce qu'il était gay ? Est-ce que du jour au lendemain, il est devenu un peu introverti comme vous nous l'avez décrit ?
Oui, Oui, Charles, c'est un garçon qui avait beaucoup d'amis, très enjoué, plutôt blagueur, qui sortait beaucoup, mais en même temps qui travaillait à l'école, qui était voilà, très drôle. Vraiment, moi, j'avais absolument pas du tout l'idée qu'il pouvait développer une schizophrénie. C'était vraiment un garçon même très très en lien avec les gens, qui parlait facilement, qui s'intéressait à beaucoup de choses, à la musique, au cinéma. C'était vraiment, j'ai envie de dire, un garçon tout à fait comme tout le monde.
Mmh. Alors, comment a-t-il développé, et comment les symptômes ont-ils évolué? Parce que je sais que ça s'en est pas resté à son côté introverti. Ensuite, tout ça a évolué. Vers quel type de situation?
Il a commencé à avoir être très désorganisé, à plus tellement être présent, voilà, avoir des propos incohérents. Il ne mangeait pas, il était devenu très maigre. Et en fait, c'est un psychologue qui nous a avertis et qui nous a conseillé que Charles ait un séjour en pédopsychiatrie quand il avait 17 ans, et pour voir un peu quelle était la part entre le cannabis et éventuellement une maladie psychique. Donc il est resté pendant 2 mois et demi. Il a été malheureusement déscolarisé, parce que à 17 ans, il était en pleine en première. Mmh. Et donc là, ils ont pu effectivement voir si les symptômes se prolongeaient sans les prises de toxiques, et ils se sont prolongés.
Mmh. Bon, enfin, ils se sont sans doute rendus vite compte lorsqu'il est arrivé parce qu'en fait,
oui, absolument. Et en même temps, ils vous disent que c'est... Enfin, moi, je sais qu'on m'avait dit que c'était une psychose dans un contexte de consommation de cannabis. Donc, je pense qu'il faut, il faut attendre à peu près 6 mois si les symptômes perdurent. Et à ce moment-là, on peut se prononcer sur une schizophrénie. Mm-hmm.
Justement, je me retourne vers vous, professeur Franck. On écoute Bénédicte. Est-ce que, voilà, lorsque on a fumé du cannabis comme ça, et qu'une crise délirium un peu se déclenche, est-ce qu'il y a un laps de temps à respecter pour bien identifier qu'on est dans la schizophrénie?
De toute façon, ce sont les critères de schizophrénie en général, avec prise de cannabis ou pas. Pour poser ce diagnostic, il faut que les symptômes s'expriment depuis plus de 6 mois, avec des symptômes plus spécifiques comme les hallucinations depuis au moins 1 mois. Donc on prend toujours du recul avant de poser un diagnostic de schizophrénie, parce qu'un tableau psychotique aigu peut être celui d'une schizophrénie, d'un épisode isolé ou d'un trouble bipolaire qui débute. En fait, face à un jeune qui ne va pas bien, qui se désorganise, qui délire, on ne peut pas encore savoir sur l'instant s'il s'agit d'une schizophrénie ou pas. La schizophrénie se caractérise comme une maladie, une affection qui se développe dans la durée. Mmh. Là, il s'agit d'un facteur déclenchant, le cannabis.
Facteur déclenchant.
Vous l'avez bien dit, d'ailleurs.
Mmh. Oui. Bénédicte, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Des lumières dans le ciel », disponible aux éditions Le Duc. Dedans, vous dites « Ma méconnaissance de cette pathologie n'a d'égal que l'étendue de mes préjugés. J'aimerais mieux qu'il ait un cancer ou n'importe quelle autre maladie précisément définie, tout sauf la schizophrénie. Qu'entendez-vous par là ?»
En fait, j'avais jamais eu aucune information sur cette maladie. Pour moi, j'avais l'image d'une maladie chronique, d'une maladie irréversible, de personnes violentes. Parce que là, on parle de, malheureusement, cette maladie, elle est souvent évoquée dans des cas de crimes, dans des cas de violence, souvent, voilà, très, vraiment avec des. Donc j'étais vraiment, j'avais très peur en fait, et je connaissais pas, donc j'aurais préféré une maladie dont on parle, enfin que je connaissais à la limite, mais pour moi la schizophrénie c'était tout de suite quelque chose de très noir, très glauque, inconnu.
Vous aviez vous-même plein de préjugés sur cette maladie, Bénédicte.
Mais j'étais très mal informée sur cette maladie, voire pas du tout informée.
Restez avec nous en ligne. Dans quelques instants, nous pourrons échanger aussi avec Wilfried, qui souhaite témoigner pour faire connaître sa maladie. Et ce sera intéressant d'entendre encore votre avis de parents, parce que je veux savoir, bien évidemment, et tous nos auditeurs veulent savoir comment va Charles aujourd'hui, comment cela a évolué. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Et Liliane nous a appelé et témoigne au 39-21. Mon fils a des problèmes psychiques, on lui a dit qu'il était schizophrène. Au bout de quelques discussions à l'hôpital psychiatrique, ça l'a braqué et maintenant il ne veut pas se faire soigner.
Europe 1.
Comme Bénédicte, vous accompagnez l'un de vos proches malades atteints de troubles schizophréniques. Racontez-nous comment vous l'accompagnez au quotidien, comment est-il pris en charge, soigné. On vous écoute au 3921. La schizophrénie, une maladie assez méconnue, pourtant assez répandue, qui souffre de préjugés. Vous êtes schizophrène, l'un de vos proches. Venez nous faire part de votre témoignage. Olivier Delacroix vous écoute au 3921.
Et avant d'accueillir Wilfried qui va nous livrer son témoignage pour faire connaître cette maladie qui est la schizophrénie, nous sommes toujours en ligne avec Bénédicte, maman de Charles, qui suite à une consommation de cannabis à l'âge de 17 ans, eh bien, a développé cette maladie qu'est la schizophrénie. Charles a aujourd'hui 26 ans, il se soigne. Bénédicte, comment va-t-il aujourd'hui? Comment décririez-vous son quotidien?
Alors justement, la difficulté de Charles, c'est que Charles a énormément de mal à accepter son traitement. Il a énormément de mal à supporter les effets indésirables du traitement. Donc actuellement, il est hospitalisé depuis 3 mois dans un service où il est justement, les personnes autour de lui, les psychiatres, essayent de l'aider pour trouver le traitement adapté pour qu'il sorte avec le moins de gêne par rapport à son traitement. Mais c'est vrai que pendant un temps, il allait bien, il prenait son traitement, il faisait du sport. Et puis, il y a eu un moment où il a plus du tout accepté ce traitement. Et à ce moment-là, il s'est mis à rechuter, à être mal. Il est allé de lui-même, d'ailleurs, à l'hôpital. Voilà, c'est un processus, en fait. C'est vraiment un processus qui est long. Mmh. Et donc, pour le moment, il est entre de bonnes mains, il est soigné. Voilà.
Et comme le professeur Nicolas Franck nous l'expliquait tout à l'heure, aujourd'hui, on semble enfin développer d'autres techniques aussi qui permettent d'avoir beaucoup d'espoir, Bénédicte, à donner à ces malades de cette schizophrénie. Et on semble ouvrir en tout cas de nouvelles perspectives de guérison, en tout cas de rétablissement. Et combien votre rôle de parent est important, Ombline.
Oui, je voulais savoir, vous, comment vous allez ? Bénédicte, justement, avec toutes ces épreuves, avec toutes ces années qui passent, comment arrivez-vous à faire face ?
Bah écoutez, moi je vais bien parce que j'y crois, j'ai beaucoup d'espoir, parce que au fil des années, je pense que là mon fils est de mieux en mieux entouré, il connaît quand même, il commence quand même à percevoir sa difficulté, les difficultés qu'il a à percevoir la réalité. Je pense que c'est moi je me suis fait aider par un programme qu'on m'a proposé qui s'appelle le programme Pro Famille, et c'est vrai que j'ai vraiment appris sur la maladie, j'ai appris à me comporter avec mon fils d'une autre manière, parce qu'en fait je faisais tout faux, je pensais qu'il avait des problèmes qu'il était paresseux, je pensais que quand il me disait qu'il avait l'impression des impressions, je n'y croyais pas. Donc maintenant j'ai vraiment cette maladie, je la connais, je sais que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se sont rétablies cette maladie, qui travaillent, qui ont des enfants, qui vont bien, qui ont une belle vie. Donc c'est vrai que j'ai pas de doute quant à son rétablissement. Après c'est vraiment à chacun, et moi je l'accompagne, je suis en responsabilité pour faire en sorte qu'il aille le mieux possible, qu'il soit bien entouré. Donc
en tout cas c'est très important de vous entendre et de voir combien vous tenez à la main à Charles depuis l'âge de 17 ans et qu'aujourd'hui à 26 vous ne la quittez pas. On va justement recueillir la parole de quelqu'un qui en a souffert. Bonjour Wilfried, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors Wilfried, vous, entre 2012 et 2013, vous avez commencé à délirer. Vous aviez des hallucinations, des pensées très sombres. Vous n'arriviez plus à discerner la réalité. Et à l'époque, vous étiez déjà avec votre femme. Vous aviez quel âge exactement quand cette schizophrénie vous a touché ?
J'avais 27 ans.
27 ans, ok. Et est-ce que le pronostic... on vous l'a tout de suite établi comme tel, parce que 27 ans...
Non, il s'est passé quelques années avant qu'on me dise que je suis schizophrène. C'est ma femme qui a fait des recherches sur Internet par rapport au délire que j'avais, et elle m'a demandé de poser la question à mon psychiatre. Quand j'ai posé la question, il m'a clairement dit que c'était ça. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on ne me l'avait pas dit avant, mais peut-être qu'on cherchait à ce que je le reconnaisse moi-même... Mmh. Que je l'étais, quoi.
Mmh. Et lorsque ce diagnostic est tombé, comment est-ce que vous l'avez vécu ?
Bah écoutez, je l'ai plutôt bien vécu. C'est plutôt un soulagement de mettre un mot sur quelque chose qu'on a, quoi.
Oui, sûrement quelque chose qui, comme le disait Tiana en début d'émission, lorsqu'on est en décalage avec la réalité, en fait, qu'on se sent pas vivre dans au même tempo que les autres, être dans une autre dimension, doit être extrêmement angoissant, non ?
À moitié dans un autre monde. Sachant que moi, à l'époque, je fumais du cannabis, ça a été l'élément déclencheur. Et je sais qu'en fumant du cannabis, j'étais vraiment dans mon monde, quoi.
Mmh. Vous dites que vous n'en parliez pas beaucoup autour de vous, et notamment à votre famille. Pourquoi est-ce que c'est aussi tabou de parler de cette maladie qu'est la schizophrénie ?
Bah, par rapport aux faits divers qu'on entend à la télé, qu'on entend que quelqu'un a fait quelque chose de mal,
ouais,
on dit directement que c'est un schizophrène, alors que forcément, le schizophrène, à la base, il se fait plus de mal à lui qu'à autrui, quoi.
Mm-hmm.
Donc,
est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'un schizophrène a beaucoup plus peur de l'extérieur et beaucoup plus effrayé de l'extérieur que, voilà, que n'importe quelle personne peut l'être en sortant dans la rue ?
Oui.
Mm-hmm. Parce qu'on évoque souvent la peur des gens, voilà, et de ces clichés qui accompagnent la schizophrénie. Mais ce que l'on ne sait pas, ce qu'on ignore totalement, c'est que les schizophrènes, en tout cas les personnes touchées de schizophrénie, craignent énormément l'extérieur et souvent souffrent énormément du regard qui est porté sur eux. Et il est bon de le rappeler aujourd'hui parce qu'il faut lutter absolument contre ces préjugés qui touchent ces patients de la schizophrénie pour les aider à trouver leur place. En montrant que l'on peut avoir une vie de couple, une vie sociale, Wilfried, c'est important, ça ?
Bah oui, c'est très important parce que on peut aujourd'hui, moi je suis schizophrène, mais je suis marié, j'ai deux filles, j'ai acheté une maison, je travaille.
Et tout se passe bien ?
On peut tout à fait s'en sortir, quoi. Tout se
ouais.
passe bien, quoi.
Et vous prenez un traitement aujourd'hui encore ?
Oui, je prends un traitement.
À vie ? Vous pensez que vous le prendrez ou
Oui, moi je le sais très bien que c'est à vie. Après, ça me dérange pas. Hein. Je suis habitué. Et
c'est comme ça.
J'ai tout à fait conscience que je le prendrai à vie, que rien ne changera à ça, quoi.
D'accord.
Malgré qu'il y a des expérimentations sur la maladie.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Wilfried ?
Je travaille en logistique.
D'accord. En logistique de ?
En logistique en tant que magasinier.
D'accord, super. Bah écoutez, mille merci de nous avoir fait partager votre histoire et justement de modifier sans doute pas mal de regards sur ce qu'est cette maladie de la schizophrénie cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup, Wilfried. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1.
Nous parlons de la schizophrénie cet après-midi jusqu'à 16h avec Olivier Delacroix. Comment déstigmatiser cette maladie ? Vous témoignez, vous nous racontez votre histoire au 3921. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous parlons cet après-midi de la maladie qu'est la schizophrénie. Comment la déstigmatiser ?
Et nous retrouvons Anne sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Anne.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Anne ?
Alors j'ai 62 ans et j'appelle d'une ville près de Rouen.
D'accord. Alors Anne, votre fils a souffert, enfin a été diagnostiqué
oui.
malade de cette maladie, la schizophrénie.
Mmh.
Et cela fait 12 ans qu'il souffre
oui.
De cette
C'est
maladie. Vous l'avez beaucoup accompagné, vous êtes resté
oui.
à ses côtés, d'où l'importance de ses parents qui ne lâchent pas la main de leurs enfants. Et vous avez,
oui.
Vous, vraiment opté pour une thérapie comportementale, faite de yoga, de sophrologie.
C'est ça.
Et il va beaucoup mieux aujourd'hui.
Tout à fait. Mmh. Alors, la première chose à dire, c'est que j'ai connu, et lui aussi, et toute la famille, le même parcours que toutes les personnes qui sont intervenues jusqu'à présent.
Oui.
Et qu'il faut un certain temps avant de mettre un diagnostic sur cette maladie.
Mmh.
Et donc, pendant ce temps-là, on perd un peu de temps parce qu'on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et puis, à un moment, donc, c'est tombé. Et là, effectivement, c'est très douloureux pour tout le monde. Et donc, y a tout un cheminement à faire dans la famille pour pas aussi que la famille éclate, parce que c'est compliqué
Bien
aussi
sûr.
Pour les frères et sœurs. Donc, c'est accepter, c'est comprendre qu'est-ce que c'est. Alors ça nous a demandé un sacré boulot, parce
oui.
qu'on était ignorants totalement.
Mais je crois, Anne, en fait, pardonnez-moi de vous couper, mais
oui.
je pense avoir, au début, vraiment énoncé que vous aviez... accompagner votre enfant, vous ne lui aviez pas lâché la main et que finalement, en comprenant cette maladie, vous en étiez arrivé à cette thérapie comportementale.
Quand on fait des recherches, ouais. Voilà, et qu'on réagit, qu'on fait des recherches sur la maladie, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait ce qu'on appelle les TCC, la thérapie cognitive comportementale, complexe à obtenir. Hein. On n'a jamais réussi à avoir le rendez-vous, mais on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Ouais. Effectivement, il faut que pour cela que le malade accepte, évidemment, de se ranger aussi derrière tout ça.
Et c'est ce qu'a fait votre fils, hein, d'ailleurs. Il vous a écouté.
Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, il est allé voir une sophrologue. Au départ, ça n'a pas été avec une. Il a changé. Il a trouvé la bonne personne. Ensuite, il s'est remis au sport. Le yoga aide énormément aussi. Mmh. Et puis, on a mis aussi en place des fiches réflexes pour tout le monde.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand on vous appelle en plein milieu de la nuit parce que la personne est en crise, qu'elle vit éloignée dans son appartement et tout ça, au départ, on était complètement perdu. Donc on s'est dit, il faut peut-être essayer de réfléchir comment réagir. Donc il y avait des fiches réflexes avec que faire quand on a vraiment des hallucinations, des voix et tout ça. Mmh. Et tout était noté pour tout le monde, de façon à ce qu'on ait tout de suite les bonnes
les bons réflexes.
Les bons réflexes, voilà.
Aujourd'hui, votre fils va beaucoup mieux, mais vous dites que vous n'en pouvez plus des clichés qui accompagnent cette maladie. Comment les combattre, ces clichés, à votre avis ? Quelle est la meilleure manière de les faire tomber ?
C'est un petit peu comme les familles d'autistes qui ont fait remarquer que certains politiques ou quelquefois dans les médias, enfin des personnes qui peuvent s'exprimer en public, utilisent le terme de schizophrénie à tort et à travers,
puisque
c'est totalement insupportable. En plus, ça ne correspond pas du tout à Dr. Jekyll and Mr. Hyde tel qu'on voudrait le représenter dans ce type d'intervention. C'est pas ça, la schizophrénie. Donc on arrête effectivement de stigmatiser, ne serait-ce qu'en utilisant ce terme, pas du tout à propos.
En tout cas, il est certain que on l'a évoqué dans cette émission longtemps, et je pense que les médias aujourd'hui font plus attention lorsque on évoque des faits divers, sanglants ou émêler une personne qui est touchée par cette maladie, et que il faut grandement faire attention. Et pour nous tous qui parlons dans des micros ou devant des caméras de télévision ou qui écrivons dans des journaux, à ne pas confondre et surtout pas utiliser ce mot, parce que c'est vrai que ce mot schizophrénie qui est utilisée à toutes les sauces et qu'il faut vraiment faire attention. Merci Anne, en tout cas, d'avoir partagé votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci à Tiana, à Bénédicte, à Wilfried de nous avoir fait partager eux aussi leur quotidien. Merci au professeur Nicolas Franck pour ses analyses, pour ses conseils et ses éclairages. La schizophrénie est une maladie encore trop méconnue. Elle reste taboue, hein. Elle attire souvent des commentaires négatifs. Pourtant, nous l'avons entendu tout au long de cette émission, être atteint de troubles schizophréniques, ça n'est pas être un danger pour les autres. On peut avoir une vie de famille, une vie sociale qui est primordiale d'ailleurs pour son équilibre. La reconnexion aux autres est un moyen d'aller mieux. Les journées de la schizophrénie qui se tiennent jusqu'au 23 mars ont pour but de sensibiliser le grand public et de déstigmatiser la maladie. Alors n'hésitez pas et renseignez-vous sur ces journées qui se tiennent jusqu'au 23 mars.
Et vous échangez sur les réseaux sociaux, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Twitter, hashtag Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel. Et vous pourrez échanger ce soir, si vous le souhaitez, avec Sabrina Philippe. Vous vous confiez lors de la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons, après l'affaire Weinstein, après le hashtag MeToo, des révélations de la Ligue du LOL. Nous parlerons du féminisme en 2019. Ce sera notre sujet à partir de 15h. Si vous avez pris conscience, il y a peu, que vous étiez féministe, si vous avez pris part aux différents combats féministes de notre siècle, si vous essayez d'éduquer vos enfants à une société plus égalitaire, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ombline et moi serons là pour vous écouter. Oui. J'étais ravi, ma chère, de passer cette heure encore avec vous.
Également, merci.